Bienvenue sur Radio France Internationale. Il est 22h à Paris, 20h en temps universel et c'est l'heure de votre journal en français facile.
Jérôme Bastion.
Et nous allons faire dans ce journal le point sur la pandémie de Covid-19 qui a désormais fait plus de 316 000 morts dans le monde et qui est toujours loin d'être maîtrisée. Et pour commencer, nous allons parler de ce plan européen de relance des économies du continent affecté par la crise du nouveau coronavirus. Plan proposé conjointement par Paris et Berlin. Il s'agit d'une enveloppe de 500 milliards d'euros que distribuera la Commission elle-même. Ensuite, la France et l'évolution de la maladie qui suscite une certaine inquiétude alors qu'apparaissent de nombreux nouveaux foyers, y compris dans des régions jusque-là grandement épargnées, même si les bilans généraux sont en baisse. Et puis l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, en plein examen de conscience, réunie en Assemblée générale annuelle, l'organisation qui dépend de l'ONU tente de se justifier face aux critiques et amorce une réforme pour surmonter le contre-coup de la crise sanitaire.
Le journal en français facile.
C'est un plan de relance inédit à plus d'un titre que propose le couple franco-allemand pour l'économie européenne. Son montant est de 500 milliards d'euros. Il vise à aider à surmonter la crise économique historique provoquée par la pandémie de coronavirus. L'élément nouveau, c'est un mécanisme inédit donc de mutualisation de la dette européenne. Paris et Berlin proposent que la Commission s'endette directement sur les marchés, ce qu'elle n'a jamais fait jusque-là, pour soutenir les régions et les secteurs les plus touchés par la crise de Covid-19. Cette proposition doit encore être acceptée par les autres États membres. Écoutez en tout cas Emmanuel Macron, le président français, lors d'une conférence de presse commune avec la chancelière allemande.
Pour la première fois ensemble, ce que nous proposons, Allemagne-France, aux 27 pays membres, c'est d'une part d'aller lever une dette commune sur les marchés et d'utiliser ces 500 milliards d'euros pour apporter des financements qui seront fléchés en priorité sur les secteurs les plus touchés par la crise sanitaire et économique et les régions les plus impactées par cette crise. C'est une étape majeure et nous espérons que la Commission européenne, dans quelques jours, portera cette proposition et qu'elle sera ensuite suivie par l'ensemble de nos partenaires. C'est ce qui nous semble indispensable pour compléter les initiatives qui ont été d'ores et déjà prises et continueront de l'être au niveau national. Je crois que c'est une transformation très profonde et c'est ce dont l'Union européenne et le marché unique ont besoin pour garder leur cohérence, c'est ce dont la zone euro a besoin pour garder son unité.
Emmanuel Macron, des propos recueillis par Anthony Lattier, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, se réjouit de la proposition constructive de la France et de l'Allemagne, je cite, « Le plan franco-allemand pour un fonds européen de relance est ambitieux, ciblé et bienvenu », dit de son côté la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, pour qui ce plan va dans le sens d'un rétablissement nécessaire de la symétrie entre les pays dans la sortie de la crise. Et puis le gouvernement espagnol a qualifié lundi de pas important dans la bonne direction ce plan de relance proposé par Paris et Berlin. Enfin, pour être complet sur le sujet, sachez que le ministre français de l'économie, Bruno Le Maire, s'est de son côté empressé de souligner que Paris pourrait profiter de ce plan pour reconstruire, c'est son terme, le service hospitalier de l'Hexagone. La France, justement, et le Covid-19, cela fait une semaine que le pays est sorti du confinement, mais pas de l'épidémie, qui reste toujours aussi virulente dans certaines régions. Ce sont ainsi 25 foyers qui ont été recensés ces derniers jours, de potentielles nouvelles sources d'embrasement surveillées de très près, Simon Rosé.
C'était fin février, le rassemblement évangélique de Mulhouse, considéré comme le point de départ de l'épidémie en France, le premier foyer de Covid-19 hors de contrôle. Deux mois et demi plus tard, personne ne veut voir l'histoire se répéter. Dès qu'un nouveau foyer d'infection est repéré, c'est ainsi une lourde logistique qui se met en place, mais avec une priorité, aller vite. Par exemple, un foyer est récemment apparu dans un abattoir du Loiret. Trois personnes sont testées positives en milieu de semaine dernière. Aussitôt, l'information questions remontent à l'autorité régionale de santé. Étant donné le grand nombre de cas contacts possibles, elle suspecte l'émergence d'un nouveau foyer. Une équipe est dépêchée sur place. Quelques jours plus tard, tout le personnel a été testé et l'établissement fermé. 34 malades ont ainsi été découverts. Tester massivement, isoler les malades et surtout transmettre l'information. Voilà la grande différence par rapport à ce qui s'était passé à Mulhouse. À l'époque, les autorités sanitaires n'avaient pas su repérer ce foyer. Il leur avait en effet fallu 2 semaines pour appréhender l'ampleur des chaînes de contamination.
Simon Rosé, et ce sont au total 54 salariés de cet abattoir du Loiret dont parlait Simon Rosé à l'instant, qui ont contracté le Covid-19 après 79 nouveaux tests effectués dimanche. L'abattoir emploie quelques 400 salariés. La France compte au total désormais 28 239 décès exactement, pour un peu moins de 180 000 cas, au quatrième rang en Europe. Réunion cruciale en ce moment à Genève. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, tient depuis la mi-journée son assemblée générale annuelle, baptisée Assemblée mondiale de la santé. En jeu, une meilleure coordination de la riposte contre le Covid-19. Plusieurs pays se sont ainsi prononcés pour que le premier vaccin soit déclaré bien public mondial, notamment la Chine. La Chine dans le viseur des États-Unis, qui l'accuse d'avoir menti sur l'apparition du virus. Le bras de fer entre les deux pays pourrait d'ailleurs menacer le fragile consensus qui se dessine. Jérémy Lange à Genève.
Parmi les premiers chefs d'État à s'exprimer, il y avait Xi Jinping. Sans surprise, le président chinois a défendu son bilan. Non, Pékin n'a rien caché. La Chine a même été transparente et solidaire avec les autres États. Xi Jinping promet ainsi 2 milliards de dollars pour lutter contre la pandémie et surtout un vaccin, s'il était chinois, qui sera déclaré bien public mondial et donc accessible à tous. En face, il y a les États-Unis. Le secrétaire à la santé de Donald Trump a dénoncé les échecs de l'OMS qui a coûté de nombreuses vies humaines selon lui. L'OMS doit changer et devenir plus transparente, a-t-il demandé, en taclant également la Chine, mais sans jamais la nommer. La question de l'invitation de Taïwan à l'Assemblée a été reportée à plus tard. Reste à savoir maintenant si les États-Unis vont bloquer l'adoption d'une résolution portée par un grand nombre de pays et qui demande notamment un accès universel au traitement. Le texte semble faire consensus, mais sans le bloquer, Washington pourrait se dissocier de certains articles. Jérémy Lanche, Genève, RFI.
En bref, toujours au sujet du coronavirus, la moitié des 50 sénateurs chiliens et 2 ministres, dont celui des Finances, ont été placés en quarantaine préventive après avoir été en contact avec un parlementaire contaminé, ont annoncé des sources officielles. Et puis, au Soudan du Sud, c'est le vice-président du Soudan du Sud et l'ex-rebelle Riek Machar qui a été testé positif, lui, au Covid-19 et s'est mis également en quarantaine. Pour finir, le bilan de l'épidémie aux États-Unis approche désormais les 90 000 morts, avec une augmentation de plus de 13 000 nouveaux cas de contamination au cours des dernières 24 heures. Il n'aimait guère cette expression, mais c'est bien un monstre sacré du cinéma et du théâtre français qui s'est éteint la semaine dernière. L'information n'a été dévoilée que ce lundi. Michel Piccoli, légendaire acteur de cinéma et de théâtre, est mort. L'acteur, disparu à l'âge de 94 ans, a vécu une existence frondeuse et aventurière. Il s'est essayé à tous les genres de cinéma et a côtoyé les plus grands. Elisabeth Le Quéré.
Avec son front dégarni, son air bougon et souriant, Michel Piccoli a toujours eu l'air d'avoir la petite cinquantaine, bien loin des autres acteurs de sa génération, les Belmondo ou Delon. Mais ce serait oublier qu'il a été un extraordinaire acteur, l'un des plus demandés, avec à son actif une longue, très longue carrière de plus de 150 films. Celle-ci commence en 1945, d'abord avec des petits rôles au cinéma, puis sa notoriété grandit à la télévision. Ainsi, en 65, il incarne un Don Juan inoubliable où il donne à voir l'étendue de son sulfureux talent. Au cinéma, en revanche, c'est la traversée du désert jusqu'en 63, année où il triomphe face à Brigitte Bardot dans Le Mépris. C'est le début d'une incroyable carrière où il alterne projets commerciaux et cinéma d'auteur ambitieux. Piccoli entretient des relations suivies avec quelques réalisateurs privilégiés, Louise Buñuel, Costa Gavras, Marco Ferreri, avec qui il tourne La Grande Bouffe. Mais son frère de cinéma, le seul, sera Claude Sautet, avec qui il fait, entre autres, Les choses de la vie. Toujours sur la brèche, ce curieux insatiable, qui se définissait comme un bohémien de l'existence, avait trouvé son dernier grand rôle en 2011 dans Habemus Papam de l'italien Nanni Moretti.
Et les hommages autant à la télévision qu'à la radio sont nombreux ces jours-ci avec de nombreux films de Michel Piccoli. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.
Tu as vu les records de chaleur en Europe cet été?